midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM.
AVS pour à votre santé. Bon midi à tous. Ah oui, c'est la première fois que je dis bon midi avec Karima Shadibaou, que je retrouve avec un plaisir mélangé de joie. Comment ça va, Karima?
Ça va très bien. Et moi aussi, je suis très contente de vous retrouver, Philippe, et de retrouver nos auditeurs et auditrices. Ça faisait longtemps.
Bon midi.
Bon midi, oui. On est quand même à la fin de la matinée, donc on peut le dire aussi.
Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas venu? Un mois, deux mois, trois mois.
J'aime bien faire les trucs par trois, moi.
Ah, c'est vrai.
Voilà, vous voyez?
Oui.
Donc j'aime bien le chiffre 3, parce qu'il y a, y a quelque chose, il y a une symbolique.
Je suis content de vous retrouver, en tout cas.
Oui, moi aussi, vraiment.
C'est votre entrée, va nous faire du bien à tous. Alors, il y a beaucoup de monde sur ce plateau aujourd'hui. On va prendre le temps de présenter tout le monde. Mais Karima, vous m'avez appelé il y a quelques jours,
hein, oui,
une dizaine de jours, pour me dire voilà, mon cœur a besoin de partir au Maroc.
Absolument.
Suite à la catastrophe qui s'est passée. Vous, voilà, c'était plus fort que vous, il fallait que vous partiez.
Absolument. Il y a un appel, un fort appel au niveau de mes tripes, comme vous l'avez dit, et au niveau de mon cœur aussi. Et voilà, je me voyais en fait être proche des victimes, être proche. Mmh. Donc le Maroc, c'est mon pays natal, hein. C'est mon pays de cœur. C'est voilà. Donc je vivre ça avec mes compatriotes marocains, être là-bas et pouvoir être utile, savoir faire ce que je sais faire.
Vous m'avez dit, j'ai besoin de prendre des gens dans les bras, j'ai besoin de prendre des enfants dans les bras.
Absolument.
Voilà. Vous avez dit voilà, moi j'ai besoin de contact, j'ai besoin d'être là.
Voilà, je pouvais pas rester à la maison et sachant qu'en fait, comme je vous l'ai dit, Philippe, c'est aussi très personnel en fait. Ma maison se vide, donc j'ai besoin d'aller. C'était aussi une thérapie pour moi, en quelque sorte, de pouvoir aller aider les autres, me sentir utile quand ma maison est en train de se vider, quand mon fils, ceux qui nous ont suivis avant les, voilà, il lève les mains. T'as vu ça?
Ça y est, hein? Zach est logé, on est tranquille.
Oui, justement. Donc là, d'avoir l'esprit libre et le cœur libre pour pouvoir m'occuper de personnes qui en ont besoin. En toute humilité, bien sûr.
À noter que des opérations humanitaires au Maroc, vous en avez fait de nombreuses, surtout dans le Haut Atlas. Donc,
exactement,
voilà,
c'était la quatrième.
C'était pas la première.
Non, c'était pas la première.
Alors, vous êtes parti avec quelqu'un que vous connaissez bien, Leïla Tona. Bonjour.
Bonjour Philippe, bonjour tout le monde, bonjour la team de Beurre FM.
Voilà, vous êtes psychopatricienne, animatrice d'ateliers de discipline positive. Donc, vous aussi, quand Karima vous a dit tu viens.
Ah, mais moi j'avais le feu. C'est vraiment ce que je disais, le feu à l'intérieur, quand j'ai entendu qu'il y a eu un séisme au Maroc, comme l'a dit Karima, la terre qui nous a vu naître. Hein. Oui. Je ne pouvais pas rester sur place. Donc j'ai chamboulé l'emploi du temps, ma vie ici, pour pouvoir justement faire ce...
Il faut dire que vous avez des rendez-vous déjà qui sont sur 6 mois. Et
et
vous avez tout,
les ateliers qui sont posés, tout était posé.
Vous avez tout vidé.
Tout vidé, et tout le monde a été compréhensif, tout le monde a eu cette bienveillance de comprendre ce départ qui s'est fait dans l'urgence. Et donc, j'étais animée par un feu. On se disait avec Karima, il faut qu'on y aille, on ne peut pas rester.
Oui. Comme vous pouvez le voir, donc c'est dans notre ADN familial. Il y a quelque chose de l'ordre du somatique, en fait, du corps qui a besoin d'être en mouvement. Et on va l'expliquer après pourquoi. Quand on était sur le terrain et de voir le corps quand il se met en mouvement, quand il y a un drame, quand il y a un traumatisme, un gros, gros, gros stress, il y a la nécessité de mettre le corps en mouvement. Parce que si on ne met pas le corps en mouvement, c'est comme si... on est mort, en fait. On est mort. Et donc, pour se sentir vivante, se mettre en mouvement, prendre l'avion, dans cet avion ce soir-là, c'était mercredi 13 septembre, on est parti et l'avion était plein de bénévoles. Il n'y avait que des bénévoles dans cet avion. C'était quelque chose d'extraordinaire.
Il y a quand même eu un vrai mouvement, il faut expliquer. Le mouvement de
solidarité.
De la part de beaucoup de gens qui sont partis. Hein.
Oui, déjà de la part des Marocains. Oui, absolument. Des Marocains déjà là-bas sur place. Des gens qui descendaient d'Oujda, de Fès, de Meknès, de Tanger, avec des voitures pleines. Quand on le voit à la télé, quand on le voit sur les réseaux, on se dit, mais quand on le vit sur place, il y a aussi les vibrations, en fait, l'énergie qui est dégagée. On est pris dans un bain. C'est comme, vous savez, Philippe, quand on est dans la période du mois de Ramadan et qu'on parle de cette solidarité, de cet élan du cœur, cette charité, cette bienveillance, cette bonté agissante qui se déploie sur le terrain, là, on l'a encore vécu, on l'a vu et on s'en est imprégné. Et ça, c'est vraiment une expérience incroyable, quoi.
Alors, vous avez une école de naturopathie, Karima.
Oui,
et vous
alors,
vous êtes dit, je vais emmener mes élèves avec moi, parce exactement. Que c'est vrai que souvent, on fait des opérations humanitaires ensemble. Mais vous dites que, en fait, il y a la théorie et il y a la pratique. Vous voulez du terrain, les enfants?
Voilà.
On va aller sur le terrain. Vous allez voir la vraie vie sur le terrain.
Exactement.
Alors, vous êtes partie avec qui, Karima?
Alors, je suis partie avec Fatima. Fatima qui nous vient à côté de Lille. Donc, quand on a lancé l'appel avec Leïla sur notre groupe de stagiaires et d'études, donc fraîchement certifiée maître praticienne en relation d'aide, eh bien, donc, elle a dit « Ah oui, je ne sais pas comment je vais y aller, mais je vais y aller. » Bon, de toute façon, elle va témoigner. Donc, il y a Fatima qui est avec nous. Il y a Jamila aussi qui est avec nous.
Fatima, vous pouvez dire bonjour. Hein.
Oui, bonjour. Bonjour, Philippe.
Merci,
bonjour,
c'est gentil.
Ouais. J'attendais la permission de ma formatrice.
Si vous attendez la permission, vous allez voir. Alors Jamila.
Et Jamila, qui
bonjour,
est aussi...
Bonjour à toutes et à tous.
Voilà, maître praticienne aussi en relation d'aide, et qui elle aussi a dit, je ne sais pas comment je vais me débrouiller, mais je viens, je ne peux pas rester. Donc elles sont
absolument.
Aussi d'origine marocaine aussi. Donc, on a aussi notre jeune Isra, qui est venue avec nous.
Donc bonjour. 26 ans, hein, déjà.
Il y a 26 ans.
Plusieurs opérations sur le terrain, Isra.
C'est voilà, ça. Elle est déjà venue avec moi en mission humanitaire avec sa maman aussi, oui. Donc qui est la fille de Leïla.
Voilà, et comme vous êtes la plus geek de toutes, vous êtes aussi community manager.
C'est ça, photographe, au top.
Voilà. Et donc, elle a aussi fait sur le terrain avec les enfants, regrouper les enfants, parce qu'on a travaillé aussi avec des associations là-bas. Et elle faisait aussi le triage, de voir, quand on parle de triage, j'aime pas ce mot, mais bon, par rapport aux situations, il y a l'état émotionnel, en fait, des personnes qu'on allait voir, qu'on allait prendre en charge.
Comment vous avez déterminé les espaces pour pouvoir poser ces émotions? Parce que dans ce cas-là, on sait très bien que quand il y a une catastrophe, il faut pouvoir exprimer et poser ces émotions. C'est un aspect qu'on n'évoque pas toujours. Hein.
Pas toujours, parce qu'on
pense à la première urgence,
voilà,
mais il y a
ça.
Aussi l'état psycho-émotionnel qu'il faut pouvoir gérer avec tous ceux qui ont perdu. Comment est-ce que vous avez géré ces espaces pour justement poser les paroles? Et comment vous êtes rentré en confiance avec les personnes pour qu'elles puissent justement libérer leur cœur?
Alors déjà, il y a un lien solide qui nous unit, nous toutes ici, à notre alliance, qu'on a posé déjà avant d'aller sur le terrain, une fois qu'on a atterri. Voilà ce qu'on attend de cette semaine qu'on va passer au Maroc. Chacune de nous, voilà, nos intentions et nos attentes. Et ensuite, on se fait confiance. Et chacune, voilà, Karima qui disait, donc toi tu prends les filles, toi tu prends les garçons, ou les enfants, les ados, les mamans,
oui.
Les adultes.
Les chibanis, les personnes, les seniors, les personnes âgées.
Et on se dispatchait comme ça sur le terrain, chacune...
Oui.
Où une devait gérer un groupe ou deux, ça dépendait du nombre de patients, de victimes qu'on devait gérer, qu'on devait accueillir. Et c'était les filles et des mois. Enfin, allez-y, prenez la parole. C'était
Il y avait en fait une, vous savez, ce qu'on appelle l'intelligence situationnelle.
Voilà.
C'est-à-dire parce qu'on partait pas avec des idées préconçues, des préjugés,
que
ça va se passer comme ça.
Parce que vous saviez que vous ne saviez pas ce que vous alliez trouver.
Non,
c'est ça.
Non, vraiment
du
pas.
Du tout.
Le premier jour, quand on est arrivé donc le mercredi soir, et on a oublié de présenter Khadija,
oui.
Qui est encore au Maroc, elle est sur le terrain et qui fait partie aussi de l'équipe et qui est là-bas. Elle continue le suivi, elle continue aussi la découverte, j'allais dire, ou la L'exploration, je vais utiliser ce mot.
Les douars,
l'exploration des douars pour voir les besoins et relever les besoins, parce qu'on est en lien avec des ONG, des liens avec des associations marocaines qui sont là-bas sur le terrain, et donc avec lesquelles on leur fait un retour. Donc le premier jour, quand on est arrivé, donc mercredi soir, on s'est installé, on a créé notre alliance entre nous. C'est quoi cette alliance? C'est comment on veut être
ensemble.
Mais
sous quelle forme? C'est-à-dire, en fait, vous êtes... Vous avez vous avez une phrase qui vous
non,
je sais pas vous l'exprimez comment votre alliance.
On a quand même renommé à un moment où on était sur une piste très très dangereuse. Vous vous souvenez où c'était très sinueux. Et elle me dit, mon Dieu, les psys de je sais plus quoi. Et je lui ai dit, mais non, c'est des psys de l'extrême, là.
Oui.
Donc, on a renommé notre équipe comme ça, les psys de l'extrême.
Voilà, parce qu'on a été dans des endroits, en fait...
Très reculés
et très difficiles d'accès.
Accessible.
Et qui ont reçu,
extrêmement dangereuses.
Ouais, et qui ont reçu toute l'aide au niveau alimentaire, au niveau... toute l'aide matérielle,
tout
en fait.
Fallait.
Et donc, nous, on s'est dit, on va monter aussi, on va voir, rencontrer les personnes qui ne sont pas sorties de... Ils sont sortis de leur maison, parce qu'ils n'ont plus de maison, mais qui ne sont pas sortis de détente, qui ont été installés depuis ce qui est arrivé, parce qu'ils ont peur d'aller à l'extérieur. Donc nous, on s'est dit, nous, on va aller les rencontrer. Donc comment on crée notre alliance, pour votre question, Philippe? Alors nous, on a une méthode, une manière. Chacun va exprimer son intention de... Alors moi, on le dit tout le temps, on a trois intentions. Une intention pour soi. Pourquoi tu es venu? Pourquoi est-ce que tu as décidé de tout claquer ici et de partir? Le pourquoi, le grand pourquoi. Le deuxième...
Alors on va vous poser des questions.
Voilà.
Fatima, pourquoi?
Alors, moi, ce que je voulais dire tout à l'heure...
Pourquoi vous êtes venue?
Pourquoi je suis venue? Alors, moi, j'ai décidé d'y aller parce que c'était déjà quelque chose qui me trottait, l'humanitaire. J'en avais parlé justement avec mon mari. Il se trouve que j'ai commencé une mission en intérim. Et je disais, j'ai envie de... Voilà, j'ai pris un poste qui n'a rien à voir avec la thérapie. Et je dis, j'ai envie de partir en mission humanitaire. Donc, j'avais cette idée-là, d'aller aider les gens et d'apporter justement ce qu'ils n'ont pas et ce dont je n'ai pas besoin moi-même, en fait. Donc, comme disait Karima, par exemple, tout à l'heure, une fois qu'elle a placé que son enfant, elle sait qu'il vole de ses propres ailes, du coup, elle sait qu'elle peut partir. Donc, moi, c'était un peu ça. C'était cette idée d'aller pouvoir apporter quelque chose à l'autre dont je n'ai pas besoin et dont je sais qu'il lui est nécessaire.
Djamina, pourquoi vous êtes partie, vous?
Alors, moi, il n'y a pas eu besoin de beaucoup de temps de réflexion. Quand Karima nous a appelé, je la remercierai toujours pour ça, vraiment. C'est qu'on n'a pas réfléchi, on a pris le billet, on est parti le lendemain, je crois.
Oui.
Moi, j'ai pris mon billet la veille, je partais le lendemain. Et j'ai posé mes congés. Pourquoi? Tout simplement, c'est le cœur, en fait, on ne réfléchit pas. Pour moi, c'était ça. Ma place était là-bas, en fait. Au-delà de l'aide matérielle qu'ils avaient, on a compris qu'ils n'avaient besoin de rien matériellement. Ils avaient des denrées alimentaires, des tentes, des couvertures, mais ils avaient besoin de soutien psychologique.
Isra?
Alors, pour moi, c'est ma mère qui m'en a parlé. J'ai dit oui directement, parce que j'avais déjà fait, en fait, des missions humanitaires. Et celle-là, elle était vraiment différente. Et je voulais vraiment y aller, être utile, les aider, donner mon maximum, en fait, pour eux.
Alors, deuxième dimension, Karima.
La deuxième dimension, c'est l'intention pour le groupe que nous formons. C'est nous ensemble. Comment on va être ensemble? Parce qu'on sait, on a eu plusieurs bienfaiteurs là-bas, des personnes qui nous ont pris un appartement déjà là-bas. Donc on était au centre de Marrakech à l'hivernage. Donc on était tous ensemble. On va cohabiter ensemble. On n'a pas l'habitude. Beaucoup moi, je connais ma sœur. Je vais cohabiter avec elle. Je connais ma nièce. Je cohabite avec elle. Khadija, je la connais aussi. Mais Jamila et Fatima, je les connais pas. Je les connais en tant que stagiaire. Et elles ont, la posture en tant que formatrice, en tant que leur enseignante, et elles en tant que stagiaire. Donc là, il y a une alliance à co-créer ensemble. Comment on veut être ensemble et comment donner le plein potentiel pour que notre équipe soit efficace et donne son plein potentiel? Comment on veut être ensemble? Et ça, c'est la deuxième intention.
Et la troisième intention?
Et la troisième intention, c'est qu'est-ce qu'on veut pour les autres? Là, on a une intention à soi, au groupe et les gens avec lesquels on va rentrer en union, les gens avec lesquels on va rentrer en contact, ben qu'est-ce qu'on veut pour eux? C'est quoi notre intention envers eux?
On parle de justement cette prise en charge psycho-émotionnelle. Vous allez justement partager avec nous tous ce que vous avez vécu sur le terrain jusqu'à 13h.
AVS revient dans un instant, midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, nous avons les psys de l'extrême ce matin jusqu'à 13h. On parle de la prise en charge psycho-émotionnelle, notamment en cas de catastrophe. Oui. Et vous revenez, toute l'équipe du Maroc. Vous êtes parti une semaine sur le terrain. On a été rejoint par... on a Khalida qui est avec nous. Khadija est avec nous ou pas? Oui, Khadija. Est-ce que vous nous entendez, Khadija?
Bonjour.
Voilà, Khadija qui est à Marrakech.
Je vous entends très bien.
Voilà, thérapeute familiale. Vous êtes installée à Marrakech et vous êtes encore sur le terrain. Vous êtes où aujourd'hui, Khadija?
Je suis en plein centre-ville. J'ai un retour là, à Amouzev. Ça s'appelle Amouzev. Enfin, c'est un nom, j'arrive pas trop à le prononcer, mais c'est en grosso modo, c'est ça. Et je suis à 1h20 comme ça, 1h15 de. On est un peu plus loin que Amouzev, de Marrakech. Donc, 1h15, 1h20.
Alors, Léla. Oui.
Non, c'est bon.
Bon, restez avec nous, Khadija. Alors, parce que vous êtes très nombreux, on va essayer de partager la parole entre vous toutes. Leïla,
oui.
Il y a des mots qui sont difficiles à prononcer parfois, parce qu'effectivement, quand on arrive sur le terrain après une telle catastrophe humanitaire telle que ce qui s'est passé au Maroc, voilà, on est en contact avec la mort,
avec la mort,
avec des gens qui sont sous les décombres, rescapés, avec des gens qui ont tout perdu.
Oui, tout à fait. Et enfin, il y en a une particulièrement qui m'a... La première qui m'a bouleversée, c'est quand... Un homme m'appelle et il me dit « Viens, viens, s'il te plaît, il y a ma sœur qui était ensevelie, qui est une rescapée, mais qui était dans un état tel de sidération, qui avait perdu l'usage de la parole, qui avait les pupilles dilatées et qui n'avait le teint verdâtre, pâle, enfin voilà, il n'y avait plus de sang au niveau du visage. »
Il faut juste dire qu'elle a été prise en charge par les médecins, on s'est occupé d'elle, elle est soignée. Elle avait des membres cassés.
L'équipe médicale donc était passée.
Voilà.
Voilà, l'équipe médicale avait été vue par toute l'équipe médicale, la caravane médicale. Et donc, j'avoue que d'être confrontée pour une première fois là sur le terrain à une rescapée, ça m'a pris aux tripes. Et je me suis dit, est-ce que tu vas être à la hauteur? Est-ce que tu vas pouvoir aider cette femme? Bon, bien sûr, j'ai lâché ces questionnements-là. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par la toucher, par me présenter. J'ai utilisé de l'EFT, donc Emotional Freedom Technique, en tapotant, en criant son prénom. Je lui ai massé, parce qu'ici, au niveau des mandibules, souvent s'engramme, donc s'enregistre le stress. Donc, parce que je connaissais pas, j'avais pas le temps, en plus, d'avoir tout l'historique de comment elle était, où, quand le mur est tombé sur elle, etc. Donc, du coup, je me suis fait confiance, j'ai massé ses mandibules, et je lui ai fait crier son prénom en disant « Amina, je suis vivante ». Donc, c'était son prénom, Amina, et elle devait dire « Je suis vivante » en inspirant. Donc, en faisant ce protocole-là, cette technique-là, c'est comme si qu'elle inspirait. Vous savez, comme quand le bébé, il arrive à la naissance, il naît, et que cette première inspiration, c'est là que ça s'est débloqué, niveau sanguin en tout cas, on a pu l'observer, et qu'elle a pu crier son prénom et nous lâcher un sourire. Donc, ouais, Philippe, je vous en parle.
Non, je vois.
Vous le voyez. Donc, je vous en parle, je frissonne, et ça vous retourne. Et quand vous vous sentez utile comme ça, enfin, je trouve plus les mots, les filles, c'est voilà.
Fatima, vous cherchiez à être utile avant de partir. Alors, en quoi est-ce que vous avez été utile sur le terrain?
Comme disait Leïla, donc on a utilisé les différentes techniques que Karima nous a, les techniques qu'on appelle d'urgence, qu'elle nous a appris, Karima. Mais moi, je voulais dire, moi, ce qui m'a marqué au premier campement, c'est cette petite fille qui est venue nous accueillir comme si on était des membres de la famille, qu'elle nous avait, comme si elle nous attendait, en fait. Ouais. Et du coup, moi, je ne l'ai pas prise en charge, donc je ne sais pas si il y avait un stress plus ou moins grand, mais elle m'a marquée. Et ce qui m'a marqué encore plus, c'est le peu d'enfants qu'on voyait au départ. Donc, on commence à se poser des questions. Il reste quelqu'un, il reste personne. Et quand on est entré sous la tente, ils sont arrivés. Au départ, on
les comptait. Tous les enfants.
Il y avait une demi-douzaine d'enfants. Et puis après, c'était
50 enfants.
50 enfants.
On a pris en charge 50 enfants.
Une demi-centaine.
Ouais. Et la petite qui t'a accueillie, c'est la petite Jeanne. Non, c'était Jeanne.
Ah, parce qu'il y avait une Hinde aussi, pardon.
Et il y avait une dame aussi que je voyais. J'avais remarqué qu'elle était là en train de nous guider, qui avait compris pourquoi on venait. Et finalement, je l'ai prise en charge et elle a lâché prise à ce moment-là. Oui. Depuis le tremblement de terre, en fait, c'est elle qui s'est occupée de sortir les personnes, de les rassurer, etc. Mmh. Et au départ, quand on est arrivé, que je lui demandais comment ça allait, elle me dit qu'elle, ça allait. Et puis finalement, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas eu le temps de vivre la situation. Ouais. Donc, quand vous prenez en charge les personnes qui, au départ, vous expliquent qu'elles sont terrorisées, qu'elles ne dorment plus, quand elles entendent un bruit, elles ont peur, et puis qu'à la fin d'une mini-séance, elles arrivent à visualiser quelque chose d'un peu plus positif, et vous dites que vous avez bien fait de partir.
Jamila.
Oui, j'écoute tous ces témoignages, je les ai vécus, j'ai l'impression de revivre encore à nouveau. Moi, j'étais marquée par Karima, Leïla, Fatima, Isra. Vous vous souvenez, les deux personnes qui étaient ensevelies, qu'on n'avait pas retrouvées, en fait, on les a retrouvées.
Oui.
À J+5, je crois, c'est ça.
Oui.
Et on était là-bas.
Vous pouvez nous préciser l'histoire?
Eh bien, ce sont un couple sans enfant.
Oui.
La dame était aveugle et quand il y a eu le séisme,
Donc son mari, lui, parce que c'est lui qui, c'est ce que nous disaient les gens de
les
droit.
Militaires et les sauveteurs, ce qu'ils nous ont dit.
Nous disaient que bon, elle ne circulait pas sans son mari. En fait, il était complètement, il s'occupait d'elle, il s'occupait tout le temps d'elle. Et on nous a dit que probablement, il a dû lui dire reste là. Oui. Et il est parti sortir ses bêtes. Donc il avait des moutons, des vaches, etc. Et il voulait les mettre à l'abri, donc leur ouvrir. Et donc ça s'écroulait sur lui. Et elle, pareil. Donc, ils ne savaient pas, ils ont eu du mal à les retrouver parce qu'il y a eu, non seulement la terre a bougé et les toits se sont écroulés, mais pourquoi c'était aussi dramatique, c'est qu'en hauteur, il y a des grosses pierres, des gros rochers. Et ces rochers-là sont descendus à nouveau écraser ce qui était déjà écrasé.
Oui.
Donc, c'est pour ça que des corps ont eu du mal à être
retrouvés. Mais en tout cas, les gens du Douar... Oui. Nous, on a à chaque fois, dès qu'on arrivait, on se présentait comme étant donc des citoyennes marocaines et qu'on venait aider, qu'on était dans l'Ilaj Nefsi, c'est-à-dire dans la thérapie. Et les gens tout de suite disaient ah oui. Et on leur disait réunissez-nous toutes les personnes, donc les différents espaces, celles qui n'arrivent pas à dormir, celles qui sursautent dès qu'elles entendent un bruit, celles qui ne parlent plus, ceux qui n'arrivent plus à bouger, n'arrivent plus. Donc en fait on les a un peu répartis un petit peu comme ça. Mais je vais redonner la parole à pour continuer.
Je voulais qu'on reprenne Radija qui est avec nous et qui est encore sur le terrain. C'est vrai que le Maroc est sorti des radars, comme on dit aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que la période émotionnelle est sortie, alors que les besoins sur place sont toujours là. Radija, là où vous vous trouvez, de quoi les gens ont-ils besoin ?
On a dépassé tout ce qui est denrées alimentaires, c'est bon. Tout ce qui est couverture, c'est bon aussi. Matelas. Maintenant, ils ont plus besoin qu'on les sorte un peu de leur peur, qu'on les sorte de leurs angoisses. Là, quand vous êtes avec eux, là, je suis au milieu d'un campement où il y a à peu près un peu plus de 100 tentes. Donc, alors, il y a des enfants, et c'est surtout les femmes qui sont très, très choquées, qui n'arrivent pas à reprendre une vie normale. Donc, elles sont très angoissées, elles ont des réveils, elles se réveillent dans la nuit en sursaut. Le moindre petit bruit provoque une peur, une boule, elles ont une boule à l'estomac. Donc, voilà, c'est à tout ça qu'on a à faire. Et même si par exemple, moi, je vois là, il y a d'autres psys qui sont sur le terrain, ils font des... Ils regroupent les personnes, ils font une espèce de séance de libération de la parole. Vous voyez, donc c'est pas suffisant. Parce que libérer la parole, il ne faut pas oublier qu'on a notre culture arabo-musulmane, notre culture méditerranéenne. On est baigné dans le partage déjà. Les femmes, elles se réunissent entre voisines, elles se mettent devant chez elles, puis elles sont là à se partager leurs soucis, à se partager. Donc, on a déjà ça. Elles parlent déjà. Donc, il n'y a pas une femme ici, ou un enfant, ou un homme qui n'a pas déjà raconté sa version de l'histoire, comment il a vécu, ce qu'il a ressenti, comment ça s'est passé, au moins une vingtaine de fois, minimum. Donc, on n'a pas besoin de les prendre encore, de les asseoir et de leur dire, allez hop, on va vous faire parler, on va libérer un petit peu la parole. C'est pas possible. C'est pas comme ça que ça marche. Ils ont besoin de méthodes, d'impact. Il faut les sortir tout de suite de leur peur. Il faut que ce soit, on est dans l'immédiateté.
Vous nous direz, Radija, tout à l'heure, comment justement, quelles sont les méthodes qui ont de l'impact hein, sur D'accord. le terrain. Et puis on continue à parler de votre expérience, mesdames, sur le terrain, puisque vous avez passé une semaine au Maroc. Faites avec nous jusqu'à 13h, ce Beurre FM.
Midi 13h, AVS, présenté par Philippe Robichon, sur Beurre FM.
Voilà, c'est le surnom qu'elles se sont donné, hein, les psys de l'extrême, ce matin, avec Karima Chedibaou qui est avec nous, Jamila qui est avec nous, Leïla Tona qui est avec nous également, Fatima, et puis nous avons Isra sur ce plateau, et Radija qui est thérapeute familiale installée à Marrakech et qui est avec nous en direct depuis le Maroc. Il y a un village qui vous a retourné le cerveau, Leïla ?
Oui, il y a un village qui m'a retourné le cerveau et les tripes, en fait. C'était viscéral. Alors, quand on est arrivé, je me souviens bien, les filles, rappelez-vous, enfin, parce qu'il nous a toutes retourné le cerveau, hein, ouais. Philippe, ce village. Donc il y avait le convoi militaire, il y avait les équipes médicales qui étaient sur place, parce que c'était un village où il y avait encore, il manquait deux corps à l'appel.
Deux personnes.
Et il y avait, on sentait dans l'air, dans l'ambiance de ce village, l'énergie. Ça sentait la mort, le deuil, mais c'était encore très, très frais. Ouais, ouais. C'était très, très frais. Et pourquoi, enfin moi en tout cas, pourquoi il m'a retourné le cerveau? C'est parce que dès qu'on est arrivé, donc on s'est présenté, on a été pris en charge par un monsieur, un jeune du village, Mohamed, oui,
qui vit à Casablanca, voilà. Et qui est venu donc revoir toute sa famille et qui a perdu
son père.
Son père.
Et puis tout de suite, donc il nous a dispatchés sous les tentes et donc il a commencé avec Karima. Elle a pris en charge un monsieur.
Oui, Abdelrahim.
Abdelrahim, père de quatre enfants. Donc, il est marié, père de quatre enfants. Donc, il a perdu tout le monde, sauf un fils. Donc, voilà. Il ne lui restait qu'un fils.
Sa femme est décédée. Deux filles et un garçon. Il restait décédés. Son autre fils.
Et donc, là, je me suis dit, bon, là... accroche-toi, Leïla, ouais. Il ne s'agit pas de toi, là, parce que je sentais que ça montait. Donc, du coup, ben, on a été dispatchés comme ça dans les tentes, et c'était que ça, Philippe. Quand on demandait à des gens, est-ce que tu as perdu quelqu'un? C'était, j'ai perdu mon père, ma mère, mon frère, ma sœur, mon oncle, mon petit-neveu. Minimum, deux ou trois membres de la famille étaient décédés dans le séisme. Voilà, donc...
C'est la puissance en fait aussi de cette capacité en fait de l'être humain quand il nous en parle. On sentait bien sûr la foi, beaucoup de foi et cette résilience naturelle, et de se dire mais comment tu te relèves après avec ça, comment tu te relèves après un séisme comme celui-là avec un village décimé avec les membres de ta famille, il n'y a qu'un seul survivant. On a pris en charge un frère et une sœur, leurs parents sont décédés, il restait que lui et elle, les deux seuls rescapés, les autres membres de la famille plus personne. Donc comment on fait pour se reconstruire après ça? Donc nous on n'a pas la réponse, ça c'est clair, on l'a pas, mais en tout cas de se dire que de donner un petit coup de pouce à cette résilience naturelle, à la plasticité du cerveau. Et on l'a vu avec les enfants, certains enfants. Mais je me souviens d'un petit garçon, d'ailleurs j'ai une vidéo avec lui, où il se lève, alors j'ai travaillé avec lui, il était terrorisé, tout le monde me disait, lui c'est le peureux, il a eu peur de zelzal, il a eu peur que la montagne lui tombe dessus. Ouais. Tout le monde se moquait de lui. Puis je regarde, je dis, mais vous moquez, il devait avoir 8 ans. Mm-hmm. On le voit sur la vidéo. Donc, j'ai utilisé les techniques que je connais. On a utilisé aussi un peu d'huile essentielle parce que le Maroc, c'est quand même le pays du cèdre de l'Atlas. Le cèdre, c'est un arbre bien enraciné dans la terre et qui s'élève dans le ciel et qui apporte, en fait, le fait de le sentir apporte de la stabilité et nous renvoie à nos racines. Donc, on a utilisé ces huiles avec ces enfants. Et ce petit garçon, à un moment donné, il me regarde et il dit « Je vais te faire plaisir, je vais te faire plaisir. » Je lui dis « Oui, vas-y. » Il se lève, il commence à chanter puis il se met à danser. Dans toute la tente, je vais vous montrer la vidéo.
Il est magnifique.
Tous les enfants, j'ai dit, waouh, c'est énorme. Avec ce qu'ils viennent de vivre, on est agi plus.
Faut dire, on partagera la vidéo sur Beurre FM.
Mais incroyable. On masquera les visages des enfants parce que je ne veux pas que les. Philippe,
on floutera.
Voilà,
extraordinaire,
la vidéo. Mais elle est, il se lève et il commence à titser et à. Et danse.
Extraordinaire.
Incroyable. Et de dire, voilà, il y a des choses. Très simple, Khadija en parlait tout à l'heure, prendre dans les bras, serrer, dire tu es là, je te vois, tu es encore là, tu n'es pas parti avec les autres, la vie continue. Et c'est ça, même si ça peut paraître des fois indécent de le dire alors qu'il y a eu tant de morts, de dire oui mais la vie elle continue, et les aider justement avec nos petits moyens bien sûr, mais de voir que même ces tout petits moyens sont quelque chose d'énorme, et pour nous et pour eux.
Alors Khadija, vous disiez que la parole avait déjà été libérée, donc c'était plus de ça dont les gens sur place avaient besoin. Finalement, quelles sont les méthodes qui fonctionnent pour se relever? Est-ce que Khadija nous entend?
Khadija?
Oui, je suis là. Mais depuis tout à l'heure, j'avais de la musique.
On est en train de vous parler, Khadija. Je disais que tout à l'heure, vous étiez en train de nous dire que la parole avait été libérée, que donc les gens, ils n'avaient pas besoin de raconter une 22e fois leur histoire.
Mais
de quoi ils ont besoin, alors, finalement, d'un point de vue psycho-émotionnel?
la parole de notre culture méditerranéenne en opposition à la culture occidentale. Nous, la parole est libérée. On discute entre nous, on discute entre copines, entre femmes, on se raconte des histoires, même si on ne trouve pas les solutions, mais on se raconte, on se vide les unes sur les autres, d'une certaine façon, entre guillemets. Mais là, ce dont on a besoin, il faut que... Moi, j'ai vécu un traumatisme, j'ai besoin que quelqu'un vienne me prendre la main, qu'il me regarde dans les yeux et que je sente, qu'il me voit, parce que je vais exister à travers son regard, parce que j'ai frôlé la mort. Donc, j'ai besoin qu'on me prenne la main, j'ai besoin qu'on me regarde, j'ai besoin qu'on sente, qu'on comprenne ce que j'ai vécu et qu'on m'aide à sortir de cette peur. Je vais vous donner un exemple tout simple. Hier, j'ai travaillé avec une jeune adolescente entre 15 et 16 ans. D'apparence, quand vous la voyez, elle rigolait avec les enfants. Elle avait l'air normale, une adolescente normale qui n'a subi aucun traumatisme, de loin. Quand je l'ai prise et qu'on a commencé un peu à parler, j'apprends qu'elle est orpheline. Elle a perdu ses deux parents. La maison s'est effondrée sur eux. Elle est restée, elle et sa petite sœur. Donc, je commence le travail avec elle. Alors, au début, elle souriait, elle disait que tout allait bien, que c'était, c'est comme ça, c'est le destin, ça s'est passé, on peut rien faire, et voilà. Tout doucement, à un moment donné, elle s'effondre, et je vois que ses yeux, elle part. Bon, on a des techniques. Elle part, et là, je comprends qu'elle a vu quelque chose. Elle a vu une image. Je lui dis, qu'est-ce que tu vois? Elle me dit, je vois mes parents. Et là, je lui demande, tu veux leur dire quelque chose? Elle s'effondre en larmes et elle me dit, je veux leur demander de m'excuser, je veux leur demander pardon. Je lui dis, pourquoi? Elle me dit, parce que je me dispute souvent avec eux. Et là, je ne pourrais plus leur demander. Alors imaginez, la petite a vécu un traumatisme dû au séisme, la perte de ses parents. Elle se retrouve toute seule et en plus elle doit se traîner cette culpabilité toute sa vie. Et il faut savoir que la culpabilité, plus elle grandira avec elle. Donc si on ne traite pas ça, ce genre de choses-là, tout de suite, on a fait l'exercice, on en avait pour 10 minutes, un quart d'heure. Vous voyez, donc ça c'est... Ce que je veux dire, c'est que voilà, si on ne traite pas ça, si on n'est pas dans... Je ne sais pas comment je vais vous dire tout ça, moi. Écoutez, moi, je pleure tous les jours, là, parce que tous les jours, je suis touchée par la détresse.
C'est être dans...
J'essaie de faire du mieux que je peux avec ce que je sais, ce que j'ai appris, en mettant plusieurs outils à ma disposition pour pouvoir pallier au plus vite et à soulager.
C'est ce que tu es en train de décrire, Khadija, ce que tu es en train de décrire, c'est ce qu'on a fait, c'est être justement ce contenant. Être ce contenant où voilà. La personne, vous créez cet espace sécurisant parce que la terre a tremblé, ma maison qui est normalement un abri, elle s'écroule sur moi. Normalement, je me sens en sécurité dans ma maison et là, la maison qui s'écroule m'emmène, me prend mes parents. Donc, comment je peux vivre avec ça et d'être ce contenant, d'être cet espace sécurisant pour apporter cette stabilité. C'est ça, en fait, dont on parle depuis tout à l'heure. C'est ça dont on parle.
Isra, vous avez 26 ans, vous étiez peut-être la moins préparée, ou pas, ou finalement... Ou pas. Est-ce que l'âge, finalement, n'a rien à voir avec tout ça?
Franchement, moi, je me sentais préparée, parce que j'avais déjà vécu des missions humanitaires, même si celle-là était différente, comme je l'ai dit précédemment.
Mais vous n'aviez pas été confrontée à la mort à un tel point?
Non, vraiment, non, ça m'a choquée, ça m'a limite aussi traumatisée.
Non, c'est pour ça que je voulais dire, voilà, effectivement, il y a un âge où on est moins confronté à la mort que d'autres, en fait.
Oui, non, franchement, ça a été un choc, mais j'ai su gérer, on a pleuré, mais franchement, ça a été à la fin.
Il faut dire que le soir, Philippe, quand on rentrait après la journée, on débriefait.
Oui,
entre aussi. Nous, qui
tu as vu. Il y avait supervision.
Besoin de ventiler, de dire... parce que même vous, là, vous parlez d'âge, mais nous, à notre âge d'être confrontés à ça. Généralement, en cabinet, quand on est au cabinet, dans le confort de notre cabinet, on reçoit la personne, on a fait l'anamnèse, on sait ce qui lui est arrivé. Et voilà, bon, elle a perdu quelqu'un. Je veux dire, on va réussir à relativiser. Mais là, c'est plusieurs morts et voilà, quoi. C'est dans l'instant T, tu fais quoi ?
Fatima, qu'est-ce que vous avez appris en une semaine ?
Qu'est-ce que j'ai appris en une semaine ? J'ai appris que, comme disait tout à l'heure Karima, avec le groupe, déjà, on est plus fort. Il y a des choses, je pense que si j'avais été sur le terrain seule, je ne sais pas si... si j'aurais pu faire quelque chose en réalité, parce que bon, il y a cette histoire de pas beaucoup pratiquer aussi, donc le but aussi c'était et ça. D'ailleurs, moi j'ai écrit quelque chose, j'étais inspirée, j'ai écrit quelque chose parce que au-delà de toutes ces...
Vous avez écrit quoi?
J'ai écrit un texte, si je peux le lire tout à l'heure.
Là, on arrive très à la fin de l'émission, je vous dis.
D'accord, ok, c'est pas grave. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est on ne sait pas en y allant, on ne sait pas où on va. On sait qu'on doit y aller, mais on ne sait pas où on va. Et on apprend de tous, en fait. On apprend de nous, on apprend du groupe, on apprend des gens vers qui on va. Et ça continue de cogiter, encore et encore.
Jamila, qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même, vous ?
Alors, sur moi-même, en fait. On est parti dans le but d'aider et d'accompagner. Et on s'est fait accompagner aussi.
Oui.
Et on a eu une belle leçon de vie. Très belle. Vraiment, on a laissé des sourires. On en a apporté avec nous aussi.
Oui.
Vous allez repartir d'ailleurs.
Oui, on repart au mois d'octobre.
On a hâte.
On a hâte et puis on a fait des contacts aussi là-bas et donc dans notre manière aussi de travailler et donc on va aller sur plusieurs. On a plusieurs choses en fait, plusieurs fronts. Je veux le dire comme ça.
Oui.
Je le dis comme ça ? Oui, plusieurs fronts.
Plusieurs,
voilà, sur lesquels on va travailler. Donc là, on est en train de préparer cette deuxième mission. Et pour pouvoir continuer le suivi, parce que les personnes avec qui dont on s'est occupé, c'est pas juste one shot. On a fait un truc. Non. Oui, il y a des choses qui ont fonctionné en un coup, one shot, mais maintenant, il faut qu'il y ait le suivi derrière. Pour pas que le SSPT s'installe complètement.
C'est quoi le SSPT ?
Oui, le syndrome du stress post-traumatique. Oui, pardon.
Oui, et puis il y a l'hiver qui arrive. De toute façon, il y a le froid qui arrive.
Il y a le froid qui arrive.
On continuera à en parler. Radija, vous êtes toujours sur le terrain, Radija ?
Oui.
Voilà, et puis on vous fait un gros bisou.
Je n'ai pas entendu la question parce que chaque fois j'ai de la musique.
Ah bon ? Qui c'est qui vous met de la musique ?
Oui. C'est pour te faire patienter.
D'ailleurs, j'ai envoyé un message, mais personne ne m'a...
Non, franchement, il y a des choses qui
depuis
vont se régler. Radija, il y a des choses qui vont se régler après l'émission. Moi, je vous le dis. Hein. Moi, je crois que Fodil, il joue avec sa D'accord. place, là, hein, Radija.
Donc, voilà. Ce qui fait que j'ai pas, à chaque fois, je n'entends pas la question.
Bon.
Il n'y a pas eu de question, c'était simplement.
En tout cas, on vous fait un gros bisou, Radija.
D'accord, ok, moi aussi.
Gros bisous.
On est avec toi.
Force et courage à toi.
Oui. On est avec toi.
D'accord. Ce qui fait que je ne sais pas du tout ce que vous avez dit. Bon, j'imagine, je ne sais pas, je n'ai rien entendu.
Alors, ce que je vous propose, c'est de réécouter l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Vous verrez la vidéo sur YouTube.
Oui, une dédicace à une dame qui était très contente, enfin, qui vous suit, Philippe, et qui nous suit, qui s'appelle Fatima, et une dédicace spéciale pour elle.
Voilà. Et puis, alors, on sera vigilant parce que c'est vrai que l'émotion, quand l'émotion retombe, qu'effectivement on oublie que il y a l'hiver qui va arriver, qu'il va y avoir des constructions en dur à construire, les besoins vont rester sur place. Hein. On pense aussi à tous ceux qui sont encore sur le terrain. Il y a des équipes de psy qui sont parties cette semaine. Hein. Les deuxièmes équipes sont parties, là sont en train de partir les groupes de médecins, qui sont là pour relayer ceux qui étaient là pour la première semaine.
Absolument.
Merci à toutes d'avoir été avec
nous. Merci à vous, Philippe.
Merci beaucoup, Philippe.
Didja, et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.
Retrouvez AVS tous les jours de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.